Si vous voulez vous tourner dans Romains 1, si vous voulez vous lever, on va lire ensemble debout, comme ça vous allez pouvoir vous réveiller un petit peu avant que je vous parle longuement. Je vais relire les passages qu'on a déjà étudiés, donc on va commencer au chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit-Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Pierre a introduit le livre depuis 2 semaines. On a vu les versets 1 à 7 et ensuite 8 à 17. Je n'étais plus sûr de tout ce qu'il avait introduit. J'avais 2 points qui, que je voulais rappeler ou réintroduire concernant le contexte de ce livre et qui sont importants à retenir pendant la lecture de ce livre et pendant l'étude de ce livre. Tout d'abord, le contexte dans ce livre, on avait dit qu'on voit souvent l'idée, Paul va parler des juifs et des non-juifs, du juif en premier, en général, il va dire, et du non-juif ensuite. Et il y a cette expression qui revient sans arrêt. Et quand on lit le livre comme ça, on saisit pas forcément, mais quand on retrouve le contexte avec les juifs et les non-juifs à Rome, ça va nous aider un petit peu dans la lecture de ce livre. Et l'idée, c'est que Paul écrit à l'église à Rome, qu'il n'avait pas fondée lui, qui, on pense, avait été commencée peut-être par des chrétiens juifs qui étaient revenus de Jérusalem, peut-être après la Pentecôte, peut-être à d'autres moments. On voit à la fin du livre que Paul connaît plein de ses croyants qui sont à Rome, personnellement. Alors, il y avait peut-être des gens qui étaient partis d'autres églises, qui s'étaient installés là. Il y a, en tout cas, cette église qui est présente et qui avait sans doute été commencée par des chrétiens juifs. Mais le livre des Actes, dans le chapitre 18, verset 2, nous indique qu'il y avait eu un épisode où l'empereur romain avait expulsé tous les juifs de Rome. Et il nous parle d'un certain croyant qui arrive dans une autre ville parce qu'il s'était fait expulser avec tous les autres juifs de Rome, pour des raisons politiques. Et du coup, une église qui avait été commencée par des juifs se retrouve sans juifs. Ils sont tous partis de la ville et ils ont perdu en quelque sorte peut-être leur base. On savait, quand on lit le Nouveau Testament, qu'il y a tout un conflit un petit peu entre la foi juive ancienne et cette foi chrétienne naissante, et un peu une bataille d'influence où on voit dans le livre des Actes qu'il y a des débats, il y a des juifs qui disent « Ah non, il faut respecter la loi et aussi Jésus, il faut se faire circoncire, et etc. Il faut pas manger telle chose, telle chose. » Et quand on lit le livre des Actes, on voit qu'il y a un débat. Et on voit qu'il y a même un petit peu, d'une certaine manière, une victoire des non-juifs sur les juifs, parce que les apôtres vont dire non, en fait, faut pas revenir aux choses anciennes, la loi et tout ça, les rites religieux. On a vu que c'était pas le plus important, c'est Jésus, c'est la foi en Jésus. Et donc cette église à Rome se retrouve sans les juifs et a sans doute un petit peu pris une certaine personnalités différentes, avec sans doute des dirigeants qui n'étaient pas juifs, une certaine culture. Ils avaient perdu un petit peu ce côté. Et dans le livre, quand on regarde ces expressions, la manière dont il parle à ces croyants à Rome, on sent qu'il y a une certaine défense des juifs de la part de Paul et qu'il y avait peut-être une certaine arrogance ou une certaine fierté de la part des chrétiens à Rome, non juifs, envers les croyants juifs, peut-être une certaine fierté, peut-être quelque chose de... Ils regardaient les juifs avec un certain côté négatif. Et donc, quand on retient ça, ça nous aide à voir Paul, souvent, dans son exposé, va dire « Non, les juifs sont importants. En premier, c'était donné aux juifs, et ensuite aux non-juifs. » C'est eux qui nous ont apporté l'écriture, c'est par eux qui est arrivé, etc. On va le voir pendant toute l'étude, pendant les mois qui viennent. Mais retenez ça, qu'il y avait sans doute ce petit combat, cette petite affrontement un petit peu entre les chrétiens juifs et non-juifs. Ensuite, on a parlé de cette lettre, du fait qu'elle possédait un caractère vraiment particulier, qu'au niveau de la culture générale, du monde, de l'influence qu'elle a eue sur l'Église, sur les pères de l'Église, sur Luther, sur Saint Augustin, sur plein de personnages, même pas forcément qu'on associe à l'Église, mais qui en lisant ce livre, on dit mais c'est quelque chose de formidable. Et on peut se dire mais pourquoi pourquoi Paul, parce qu'il a écrit plein de lettres, et pourquoi cette lettre-ci est si particulière. Quand on regarde les autres lettres, on voit que souvent, c'était des lettres qui étaient écrites, qui s'adressaient à l'Église en question, qui adressaient certains problèmes, qui adressaient la situation particulière de l'Église en question, et c'était beaucoup plus ciblé sur l'Église. Et dans Romains, on a l'impression que Paul fait fi d'une certaine manière. Alors, comme je vous ai dit, il va parler des juifs et des non-juifs quand même, donc il reste un petit peu dans leur contexte particulier, mais il écrit vraiment pour présenter l'Évangile d'une manière très générale, très large, et très claire et systématique. Et c'est pour cette raison que cette lettre est considérée comme étant d'une certaine manière à part dans le Nouveau Testament. Et quand on se souvient de la vie de Paul dans Actes, on peut peut-être trouver un point d'explication à ça et la raison pour laquelle il écrit comme il écrit ici. On pense qu'il a écrit cette lettre depuis Corinthe, pendant son troisième voyage missionnaire. Et quand on regarde dans le livre des Actes, si vous voulez regarder, c'est dans le chapitre 21, mais en tout cas on sait par le livre des Actes que Dieu l'avait averti. Dans la lettre aux Romains, il dit qu'il va retourner à Jérusalem, et Dieu par l'Esprit Saint l'avait averti que des choses difficiles l'attendaient en revenant à Jérusalem. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs passages dans Actes où il y a même des frères et sœurs qui lui disent « Non, mais n'y va pas, il y a un prophète qui lui met quelque chose autour des mains et qui lui dit « Tu vas être lié, tu vas avoir les mains liées en retournant à Jérusalem. » Et donc il sait qu'il y a quelque chose de très difficile qui l'attend à Jérusalem. Et Paul avait cette envie, il le dit au début, d'aller à Rome. Il voulait vraiment évangéliser et partager tout ce qu'il pouvait avec l'Église à Rome. Paul étant quelqu'un de très réfléchi, savait sans doute qu'en atteignant Rome de manière conséquente avec l'Évangile, ça pourrait avoir un impact sur tout l'Empire romain, sur tout le monde connu de l'époque, sur s'il arrivait à, en quelque sorte, infecter le centre névralgique de cet empire, il pourrait atteindre plus de monde qu'en restant dans d'autres villes. Et donc il a cette envie, et je pense que, d'une manière simple, il se dit peut-être qu'il ne pourra peut-être pas aller à Rome. Il se dit peut-être que la fin de ma course, c'est à Jérusalem. Peut-être que je vais pas en réchapper. Donc, je veux leur écrire et leur donner une exposition claire de l'Évangile au cas où. Il se dit, je vais leur donner tout ce qu'il faut. Comme ça, même si moi, j'arrive pas, même si moi, je dois mourir ou je reste emprisonné à Jérusalem, au moins, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Ils auront la présentation de l'Évangile de manière très claire, et ils pourront utiliser ça eux-mêmes et grandir avec. Et donc, cette lettre aux Romains, c'est une présentation puissante, systématique, claire, détaillée de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu aux hommes, et le fait que nous pouvons obtenir la justice vis-à-vis de Dieu par la foi en Jésus-Christ et par ce qu'il a accompli à la croix. Dans le passage où on va regarder maintenant, à partir du verset 18, on va avoir maintenant le début d'un argumentaire sur l'Évangile. Et la première chose qu'il va faire, alors on a vu les versets 16 et 17, il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Et on pourrait dire que, si on veut regarder la structure du livre, on pourrait dire qu'il va commencer avec une première partie qu'on va commencer à regarder maintenant, qui est « Pourquoi avons-nous besoin de l'Évangile ?» Et l'idée est simple, c'est que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont pécheurs et ne sont pas justes devant Dieu. Ensuite, plus tard dans le livre, il va expliquer un petit peu ce qu'est l'Évangile, le fait que nous pouvons être justifiés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Après, il va expliquer comment l'Évangile s'exprime, se révèle dans nos vies de manière pratique. Il va expliquer pour qui est l'Évangile, pour tous les hommes. Et à la fin, il va expliquer comment l'Évangile se met en pratique dans nos vies, les aspects pratiques et de comment nous devons la vivre, avant de conclure avec les salutations à l'Église. Mais c'est vraiment toute une présentation de l'Évangile. Et on voit les versets 16 et 17. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra pour la foi. On a parlé un petit peu, Pierre a déjà parlé brièvement, mais encore une fois, en se plaçant dans ce contexte romain, en se disant à qui il écrit, c'est un petit peu, nous on lit ça encore une fois avec le recul, sans y être, mais pour les Romains, Jérusalem c'était une petite province de rien du tout, qui était sans importance, qui posait parfois problème, mais qui était rien du tout. Et donc pour lui de dire aux Romains qui dominent l'Empire, qui sont dans la capitale, se dire qu'il y a un petit charpentier juif qui est mort et que c'est par lui que Dieu veut faire quelque chose de grand, c'est quelque chose qui pouvait être honteux. On pouvait se dire c'est peut-être un petit peu comme si, j'en sais rien moi, vous habitez Paris et les gens vous demandent quelle équipe sportive vous soutenez et vous dites ah ben moi je suis fan de l'AS Fontaine. Désolé, ils sont même pas professionnels, c'est juste des amateurs ou etc. C'est un petit peu ça aussi. Donc il utilise ce mot de puissance et on se dit mais là aussi c'est pour les Romains connaissent, ils étaient puissants, ils dominent le monde, je veux dire l'Empire romain c'est un truc qui a duré 1000 ans quoi. Faut se mettre ça dans la tête quoi. C'est un empire qui a dominé entre guillemets le monde pendant 1000 ans. quand on pense aux dictateurs les plus puissants, aux empires de nos jours, les soviétiques, même les États-Unis, leur influence dans le monde, ça fait 100 ans. Peut-être ils ont leur influence, leur place dans le monde, peut-être depuis la Première Guerre mondiale. C'est l'Empire romain, c'est 10 fois plus. Et de dire l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, ça devait être intéressant, j'arrive pas à m'y mettre, mais de me mettre à la place des Romains, d'entendre cette phrase, de me dire, mais alors ok, c'est si on croit en Dieu qui a créé le monde, qui a tout fait, qui est et sa puissance, c'est cet évangile qui se base sur un petit gars qui est mort et ressuscité à Jérusalem. C'est quoi cette histoire? Et Paul, parfois on l'oublie, parfois je l'oublie, mais Paul sait que l'évangile contient une puissance inhérente à elle-même de manière spirituelle. Et il explique, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et elle révèle la justice de Dieu. Et il y a une puissance spirituelle, la puissance spirituelle de Dieu pour sauver les hommes contenue dans l'Évangile. Si on annonce l'Évangile, si on la présente aux gens, il y a une puissance. Et Pierre a parlé la dernière fois, le mot utilisé, c'est le mot dynamos, qui nous donne dynamite, qui cette idée d'explosion, cette idée qu'il y a quelque chose qui impacte de manière puissante le monde. Et souvent, moi je l'oublie, souvent on passe à côté, mais cette idée que l'évangile peut exploser de manière radicale et transformer le monde. Si vous voyez l'histoire dans les Actes, dans Romains, dans ces lettres, l'expansion et l'avancée de l'évangile dans cet empire romain, c'était hallucinant la vitesse à laquelle ça a affecté tout le monde antique. Ça a vraiment, cette puissance a agi et a explosé. Et Paul, ici avec cette lettre aux Romains, il veut que cette puissance se explose à Rome et c'est pour ça qu'il écrit et c'est pour ça qu'il détaille tout ça. Alors, comme je vous ai dit, la première étape est ce qu'il va commencer à faire dans son argumentaire. Donc il dit voilà, je vais vous parler de l'évangile. Et la première chose qu'il va faire, c'est dire l'homme a besoin de l'évangile, a besoin d'être sauvé. L'homme, les non-juifs, il va commencer avec les non-juifs et ensuite il va s'attarder sur les juifs et il va expliquer et montrer que l'homme a un problème, c'est qu'il est pécheur et il est injuste devant Dieu et que sans ce salut, il risque gros. L'idée que si vous avez quelqu'un qui est très malade mais qui ne pense pas être malade, c'est difficile de les convaincre de prendre leurs médicaments. Si on vous dit vous avez des problèmes de tension, donc il faut manger moins de sel, mais vous vous sentez normal, donc le sel vous en mangez, c'est bon, ça va pas vous influencer, vous êtes pas vraiment convaincu. Si demain vous vous réveillez, que vous levez du lit, vous tombez dans les pommes ou qu'il vous arrive quelque chose comme ça, vous allez être un petit peu plus convaincu et vous allez rechercher un remède. Et l'homme, malheureusement, souvent pense que ça va, qu'il est bien et qu'il n'a pas besoin de salut. Et Paul, il veut leur dire, il veut nous dire, il veut dire aux hommes que nous avons besoin du salut, nous sommes tous dans une situation problématique. Et il commence au verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » Il commence avec la colère de Dieu. Et il va en parler plusieurs fois dans le livre. On pourrait s'attarder longuement là-dessus, y a toute une réflexion sur l'idée de Dieu. Souvent, on pense à Dieu comme étant le bon Père Noël qui est toujours gentil, qui est toujours tranquille, et ce côté Dieu qui juge, Dieu qui est juste, Dieu qui a des exigences et qui peut pas tolérer le péché et qu'il y a une colère de Dieu qui est réservée pour le monde qui ne croit pas en Jésus, c'est quelque chose que nous avons plus de mal à accepter, mais que la Bible nous présente comme une vérité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à repasser dans le contexte en se disant que c'est la chose la plus grave qui puisse arriver à l'homme. Tout le reste, toutes les péripéties du monde, toutes les choses physiques, toutes les choses que nous pouvons endurer dans nos vies ici sur Terre sont difficiles, sont dures, on peut souffrir. Mais si on reste dans un état de rébellion envers Dieu et que nous arrivons après notre vie ici devant Dieu et que nous avons à subir son rejet et sa colère, ce sera bien, 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 bien pire à tout ce que nous aurons pu vivre ici. C'est un sujet très riche, très vaste, et que les gens du monde ont parfois du mal à accepter. On a souvent du mal à se dire que Dieu peut avoir cette caractéristique-là. Même nous, en tant que croyants, des fois, on peut se dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce que certaines personnes subissent éventuellement comme vie, comme difficulté et tout ça, et de se dire que de passer de là à peut-être bien pire devant Dieu et peut-être l'enfer pour l'éternité, on a du mal à saisir. La Bible nous la présente comme une réalité, le fait que Dieu est juste, qu'il y a une justice, et que c'est comme ça que le monde marche. Et il faut faire attention dans nos cœurs de nous mettre à la place de Dieu. On va voir dans la suite du texte, mais cette idée qu'on puisse... des fois, on discute avec les gens, et les gens vont dire, si Dieu existe, quand j'arrive devant lui, j'ai deux, trois mots à lui dire, comme si on allait arriver au ciel et lui expliquer... le pourquoi du comment, et lui dire qu'il a fait les choses n'importe comment. Et c'est notre cœur, c'est notre réaction, c'est notre manière de voir les choses. Quand il vous arrive des choses difficiles, vous pouvez peut-être vous dire, mais Dieu, c'est quoi ces histoires? La Bible nous l'explique et nous devons l'accepter et le comprendre, c'est que Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint et qu'il a une justice qui est sa nature même et qu'il doit faire respecter. Il a donné des lois, il a donné des choses, et nous devons, si nous n'y répondons pas, si nous ne gardons pas et nous n'obéissons pas à ces lois, alors nous sommes en situation de faillite devant Dieu et nous avons un problème. Il parle ici d'impiété et d'injustice des hommes. L'impiété, on pourrait dire que c'est tous les péchés qui sont envers Dieu, les choses que l'on fait contre Dieu. Dans les 10 commandements, c'est les 4 premiers les 4 premiers commandements où il y a l'idée d'adorer des faux dieux, l'idée d'utiliser le nom de Dieu d'une mauvaise manière. Mais après, il y a l'autre partie qui est la partie injustice qu'on pourrait qualifier de péché entre les hommes, les choses que l'on fait aux autres hommes, le meurtre, l'envie, etc. Si vous regardez les 10 commandements, on peut diviser en deux parties les 10 commandements comme ça. Donc il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre ses péchés, les deux catégories, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Alors c'est un petit peu la manière dont c'est présenté, c'est un petit peu, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est l'idée qu'on connaît la vérité, mais qu'on va la supprimer, qu'on va refuser de l'écouter, qu'on va ne pas l'accepter, et qu'on va dire je connais la vérité, mais on va plus en parler, on va la laisser de côté et on va faire ce qu'on a envie de faire. Ensuite, les versets 19, et alors il continue les versets 20 et 21, il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » C'est au chapitre 2, on regardera un petit peu plus en détail, mais l'idée ici, dans cette partie de la lettre aux Romains, c'est que les hommes devraient et ont une révélation de qui Dieu est par sa création, et par ce qu'ils ont dans leur conscience, en eux-mêmes. Et que ces deux choses sont des choses qui doivent nous permettre de savoir qui Dieu est et de le connaître. Alors là aussi, c'est toute une étude, mais par la création, alors je vais en parler après, l'idée de conscience qu'on va regarder dans Romains 2, c'est une question intéressante à poser aux gens qui défendent, par exemple, la théorie de l'évolution. Moi, j'avais eu une discussion dont je me souviens très clairement en, en terminale avec ma prof de philosophie. Et elle m'avait dit, elle avait expliqué que l'homme, qu'il y a une... De par le monde, on retrouve des valeurs morales communes. Dans tous les hommes sur la planète, il y a certaines choses qui sont mauvaises. Le meurtre, l'inceste. Et j'avais posé la question à cette prof, j'avais dit, mais... Si nous sommes évolués, nous venons des singes, chez les singes, il n'y a pas ces règles. Elles n'existent pas, ce n'est pas présent, et ils n'ont pas de problème avec ces choses-là. Ils n'ont pas des tribunaux quand il y a un singe qui tue un autre, ça n'existe pas. Et j'avais posé la question à ma prof de philo, et je lui avais dit, mais comment on explique ces règles ? C'est un jour, il y a les singes qui se sont dit, ils étaient presque devenus hommes, et ils se sont réunis, ils ont dit, on va plus, l'inceste c'est mauvais, le meurtre c'est mauvais, etc., etc., on est tous d'accord, ok. Et c'était étonnant, parce que ma prof de philo, qui était pas croyante du tout, m'avait dit, la seule explication qu'on ait pour l'instant, c'est l'idée d'une intervention supérieure, d'un dieu, de quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors après, si j'ai commencé à regarder des articles Wikipédia sur l'idée de morale, de justice, d'éthique. Alors vous pouvez passer votre vie à faire des thèses là-dessus. Donc si vous voulez vous y perdre, et je suis sûr qu'il y a des gens qui viendraient, qui auraient des contestations à apporter. Mais je crois qu'il y a cette idée simple que la Bible nous présente et que Romain nous présente, c'est que Dieu a mis quelque chose dans le cœur de l'homme et c'est une preuve que Dieu existe et que nous ne sommes pas le fruit du hasard et Dieu est là. Et il continue, alors les verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et c'est un petit peu... je pense qu'aujourd'hui, quand je lis ça, j'ai un petit peu de mal à me dire ça. Je me dis plutôt, ben, si on va regarder tout ça, c'est un petit peu difficile. On se retrouve dans des conversations avec les non-croyants où on a l'impression que parler de la création ou de leur conscience pour essayer de leur prouver que Dieu existe, on se dit que ça ne va pas aller loin. Mais je pense que c'est une erreur et qu'on est souvent un petit peu par... l'ennemi nous fait peur et nous empêche de d'aborder ce sujet-là ou de l'approcher de cette manière-là. Il y a des questions simples où on peut poser des questions et dire mais déjà la beauté du monde, la complexité incroyable du monde pour laquelle les physiciens n'ont pas de réponse, les choses qu'on essaie d'expliquer mais qu'on n'arrive pas à expliquer, si vous parlez par exemple à des physiciens ou des astrophysiciens honnêtes, il y a des choses où ils vont vous dire on n'est même pas proche d'arriver à comprendre ou à expliquer ces choses-là. Ne serait-ce que une des théories favorites du Big Bang, mais on se dit mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et là il y a même le Big Bang. Si vous regardez, moi j'avais lu un livre une fois et il y avait un truc de 200 pages avec toutes les théories possibles pour essayer d'expliquer l'expansion de l'univers, est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit pas, des trucs qui en accordéon, qui font comme ça, parce qu'ils cherchent des modèles, parce que l'idée c'est ils voient ça, et ils voient le monde, ils voient l'univers, et c'est ça crie Dieu, et l'homme dit non, je vais trouver une autre explication, je ne veux pas que ce soit Dieu, je vais trouver un autre moyen de l'expliquer, et c'est ce qu'on voit dans la suite de ce texte. En refusant la vérité, et puis en se vantant d'être sage, ils deviennent fous et ils trouvent des choses qui sont complètement folles pour expliquer les réalités du monde. Les atomes, le fait que le noyau des atomes soit plein de charges de la même polarité qui se retrouvent tous ensemble, si vous mettez deux aimants de la même polarité et que vous les poussez les uns vers les autres, elles ne veulent pas aller les uns vers les autres. Et l'univers est fait d'atomes qui, et pour ça, ils n'ont pas d'explication. Et Paul dit ils sont inexcusables. Verset 21. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est intéressant de noter que dans ce passage, il dit « Tout en connaissant Dieu, ils ont refusé de lui obéir. » Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est l'idée que la connaissance ne fait pas tout. Nous pouvons savoir plein de choses, nous pouvons savoir plein de choses sur la Bible, nous pouvons savoir les faits, mais la Bible nous demande une réponse et un comportement, des actions derrière, des réactions à ces faits. Et si on a juste une connaissance stérile qui ne nous incite pas à répondre, à réagir à cette connaissance, alors elle est inutile. Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Dieu mérite la gloire, Dieu mérite notre adoration. Nous chantons le dimanche matin parce qu'il le mérite. Nous voulons lui obéir parce qu'il le mérite, parce qu'il est Dieu. Et là aussi, des fois, je dis ces choses et je me dis c'est un concept un peu bizarre, cette idée de Dieu, cette idée qu'il mérite. Mais c'est quelque chose, je pense, sur laquelle il est bon de passer du temps, de méditer, de se dire mais c'est Dieu, d'essayer de se rendre compte de sa grandeur et de sa puissance et d'essayer de se remettre à la bonne place vis-à-vis de Dieu. Et le monde autour de nous ne montre pas de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Là aussi, l'idée d'ingratitude, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'homme, souvent, non-croyant, si on leur parle de Dieu, et ils ont cette réponse que j'ai dit tout à l'heure, où ils vont dire, mais s'il y a un Dieu, alors il a fait n'importe quoi, etc., etc. Alors, je pense que c'est quelque chose simplement pour nous de faire attention en tant que croyants, d'avoir une attitude. Pierre en parle souvent, il appelle ça l'attitude de la gratitude, il aime bien la petite rime, on retient bien ça. Mais est-ce que moi, dans ma vie, j'ai trop souvent un petit peu de reproches à faire à Dieu ? Est-ce que je ne suis pas. À Dieu, si j'avais un appartement plus grand, alors je pourrais accueillir mes invités syriens ou irakiens. Dieu, si j'avais juste un petit peu plus d'argent. Dieu, pourquoi les riches, pourquoi les non-croyants, ça va bien, etc., etc. Et on tombe dans une petite, on est là à se plaindre, quoi. C'est l'attitude du monde qui ne reconnaît pas Dieu pour ce qu'il est et qui n'a pas l'attitude correcte, qui est de lui dire merci, de regarder ce que nous avons, de regarder la vie, de regarder le monde autour de nous, de regarder aussi Jésus et le salut que nous pouvons avoir en lui et de lui dire merci et d'avoir ce contentement. C'est vraiment une discipline et quelque chose que Dieu veut que nous ayons. Verset 22, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est l'idée de leur cœur sans intelligence qui a été plongé dans les ténèbres. Pierre en parle souvent de l'idée que dans la possible présentation d'une constitution européenne, Les gens aujourd'hui veulent effacer toute référence à une culture judéo-chrétienne et à Jésus et la Bible. Si vous regardez l'histoire, moi j'aime bien écouter des podcasts d'histoire, où, je vous en ai parlé déjà, j'aime bien lire Wikipédia, c'est un truc qui m'intéresse. Et je suis toujours frappé, j'ai écouté quelques histoires sur... Là je suis en train d'écouter un truc sur la conquête des Romains de la Gaule antique, de voir les peuplades de cette époque-là, de voir les Romains, de voir quand on regarde, j'avais étudié un petit peu en détail les Assyriens ou l'Empire Perse avant, ou j'ai écouté toute une série sur Genghis Khan et les Mongols, et c'est super intéressant, mais quelque chose qui me frappe toujours, c'est le côté incroyablement animal de ces hommes de cette époque et d'un monde mais barbare, un truc hallucinant, quoi, où dans toutes les conquêtes, dans toutes les guerres, l'idée de droit de l'homme, l'idée de quelque chose de on tue, etc., il y a des atrocités qui sont commises, et quand on regarde l'histoire et qu'on arrive, nous, aujourd'hui, de se dire que le progrès moderne, que la science, que les développements de la société, que l'industrie, que la médecine, que toutes ces choses-là dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui, se dire que ces choses-là n'ont aucun lien avec la foi chrétienne, c'est de la folie. D'où vient l'impression ? D'où vient l'idée que l'éducation est bonne ? D'où vient l'idée que la médecine est importante ? Tout est issu de gens qui croyaient en Dieu. Gutenberg, c'est l'impression. C'est pour ça que le savoir a pu se répandre. C'est pour ça que les révolutionnaires français ont pu publier une encyclopédie. C'est parce qu'il y avait un chrétien qui se disait « La Bible vaut la peine d'être publiée. » Et se dire qu'on va rejeter ça... Pour moi, quand je regarde l'histoire humaine comme ça, je me dis, mais en fait, c'était la barbarie, c'était le monde animal, sauf les Juifs, qui eux avaient un ordre donné par Dieu, et ensuite Christ arrive, et le monde se développe de manière très positive jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire, c'est indéniable. Si vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous nie ça, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes. Et aujourd'hui, le rejet de la culture chrétienne, de la foi chrétienne, va nous entraîner à nouveau vers une déchéance de l'homme et un retour à un état horrible. Et c'est triste à dire. Et on regarde le futur avec une certaine inquiétude. Mais nous avons le salut, nous avons la bonne nouvelle à annoncer aux gens. Mais leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ce verset 23 est très, j'ai trouvé super intéressant, dans le sens où on a au premier abord, on se dit, on pense au rite religieux ancien. On peut penser aux hiéroglyphes égyptiens où il y a des dieux bizarres avec des têtes d'oiseaux, des trucs un peu des bêtes. On regarde les Grecs ou les Romains et là aussi ils ont des dieux assez chelous, des trucs vraiment bizarres qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Ils remplacent Dieu, ils avaient l'image de Dieu et ils mettent à la place des images bizarres. Mais le verset 23, est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelque chose d'autre ? Pour moi, j'étais frappé en le lisant, en me disant que les images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, moi, ça me rappelle toutes les descriptions de l'évolution que j'ai jamais vues. On remplace Dieu par l'homme et par des bêtes, cette évolution avec les oiseaux, les reptiles, les machins. Si vous regardez l'évolution, c'est ces images-là qui viennent. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté dans les désirs, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Parfois, Dieu, sa manière d'exprimer ou d'exercer sa colère, c'est simplement de nous dire « Tu veux ça ? Tu es sûr que tu veux ça ? D'accord, vas-y. » Et subissant les conséquences. C'est ce qu'il est dit ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Il leur dit « Ok, ils adorent la créature au lieu du Créateur. » Là aussi, on pourrait s'attarder dessus longuement, sur toutes ces choses. Et puis au verset 26, il dit « C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Il y a une dévolution, il y a l'idée que leur intelligence qui est corrompue, ensuite leur comportement, et ensuite à la fin c'est un petit peu comme s'ils ne savent même... l'homme, s'il est livré vraiment à lui-même, au bout d'un moment c'est comme s'il ne sait même plus vraiment se comporter comme un être humain. Paul qui écrivait depuis Corinthe, on sait que Corinthe était une ville qui avait un temple qui était connu pour son immoralité sexuelle et pour les choses qui s'y passaient. Donc Paul écrivait sans doute avec ça un petit peu en tête. Mais quand on regarde aussi l'histoire et quand on lit à propos de Rome et du monde antique, on s'aperçoit que la moralité, que la... L'état de corruption morale de ces sociétés était très avancé. On se dit que l'homosexualité c'est quelque chose de nouveau, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose qui était très répandu à l'époque. Il y a eu des mariages. Il y a un des empereurs qui s'est marié à un petit garçon. On a ça dans les livres d'histoire. C'est pas, je veux dire, de penser que l'homme évolue vers le progrès et arrive aujourd'hui seulement maintenant, on arrive à se libérer, arriver à que tous peuvent s'aimer. C'est bien. C'est pas quelque chose de nouveau. Faut arrêter. Là aussi, c'est une mauvaise lecture de l'histoire. C'est être de mauvaise foi. Les Grecs, on sait que c'était le cas. Les Romains, on sait que c'était le cas. Il y avait des choses horribles qui se passaient. Et c'est la présence de la foi chrétienne qui a permis d'enlever ces horreurs qui n'étaient pas des choses bonnes. C'était des choses horribles. Et même des écrivains, des historiens parallèles à la Bible qui parlent de l'état de déchéance morale de la ville de Rome étaient un petit peu en... Il y avait certains philosophes qui étaient... Ils disaient, mais comment on va s'en sortir ? C'est tellement horrible. Et c'était... Et donc il y a cette progression dans la rébellion contre Dieu, cette sexualité qui est mise à mal, on sait dans l'Église l'état du monde, l'avancée de ces agendas, des théories du genre, etc. La sexualité qui est présentée dans la Bible et la famille telle qu'elle est présentée dans la Bible qui est mise à mal de toutes parts. Et là aussi, par exemple, on a parlé beaucoup de la théorie des genres avec la question du mariage pour tous. Et quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et qu'on m'a toujours pas expliqué, c'est si on rejette Dieu et qu'on croit que l'homme est descendant du singe, qu'on défend la théorie de l'évolution, les biologistes qui défendent cette théorie vont souvent nous expliquer que alors les femmes vont plutôt avoir tendance dans une société agraire à choisir des hommes avec des épaules larges parce qu'ils travaillent mieux. Les femmes avec des hanches larges vont être plus aptes à procréer, etc. Ils vont nous expliquer des choses comme ça. Il y a une biologie qui est réelle, qui est qu'on peut, sauf depuis quelques années avec des choses chimiques qui dont on ne sait pas les conséquences long terme sur la biologie humaine, et la théorie du genre et l'idée qu'on va passer outre même la biologie ne fait même pas sens au niveau biologique évolutionnaire. C'est-à-dire, même sans Dieu, si on explique le monde avec la biologie sans Dieu par l'évolution, alors la théorie du genre ne marche même pas. On peut pas se reproduire si on n'a pas... Il y a des règles simples qui sont là biologiquement. Et alors, cette idée de dire on va passer outre et on va faire ce qu'on veut, et la Bible nous explique simplement que c'est notre en tant qu'être humain, quand on rejette Dieu, quand on a envie de se rebeller, l'idée c'est je veux faire ce que je veux et je ne veux pas accepter ce que j'estime que Dieu m'impose, que ce soit le mariage, que ce soit dans les choses dans la Bible ou les choses dans sa création, à savoir une biologie qui nous est imposée par ce que Dieu a créé. J'ai pas le temps, mais il y a une partie des responsables chrétiens en Angleterre aux États-Unis, qui cette semaine ou il y a deux semaines a publié ce qu'ils appellent la charte de Nashville, où c'est un peu une présentation de la foi chrétienne orthodoxe dans le sens selon la Bible. Sur la sexualité, sur le mariage et sur ces choses-là, pour essayer d'avoir un front uni en disant voilà ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et si j'avais eu le temps, je vous l'aurais lu, mais ça prendra trop de temps. Si vous êtes intéressé, je peux vous communiquer. Il y a un site français qui en a fait une traduction et vous pouvez le lire. Ça prend pas très longtemps, mais c'est une bonne chose à lire, surtout de nos jours avec le monde autour de nous et les choses qui se passent. Alors, verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, alors que la Bible nous explique qu'a priori, c'est notre raison d'être, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et l'homme qui ne croit pas rejette Dieu et dit j'ai pas envie de te connaître. Et Dieu, en quelque sorte, sa colère et l'enfer, c'est d'une certaine manière le respect de Dieu de cette décision de la part des hommes, de dire Dieu, j'ai pas envie de te connaître. Et Dieu dit d'accord, mais tu as été créé pour me connaître, et si tu ne me connais pas, c'est l'enfer. Et je pense que ça permet un petit peu de replacer cette idée de colère de Dieu, la justice de Dieu et les conséquences, l'enfer, la damnation éternelle. C'est l'idée simplement que Dieu ne respecte notre choix. Il nous donne un choix et il nous a donné notre libre arbitre. Et on peut se dire, mais Dieu, tu vois le monde, est-ce que c'est... On peut lui faire des reproches, mais l'idée, c'est que Dieu, dans sa sagesse, a jugé bon de nous donner un libre arbitre et de nous donner ce choix. Et il le respecte. Et donc, il nous livre à une intelligence déréglée avec des actes indignes. Verset 29, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder, de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. C'est une belle liste. C'est une lecture légère qui fait plaisir à commenter. Je ne vais pas la commenter en détail. Je pense que c'est important de lire cette liste, pas comme quelque chose où on... Je trouve que dans la traduction, donc c'est la traduction second 21, en la lisant, j'avais vraiment l'impression que c'était de dire ils sont mauvais. Qu'est-ce qu'ils sont corrompus et mauvais, et c'est horrible. Et je pense que c'est une liste qu'on doit regarder en s'examinant soi-même aussi, parce que nous sommes humains, nous sommes pécheurs, et tant que nous ne sommes pas au ciel, nous avons des péchés qui restent dans nos cœurs. Et quand on lit cette liste avec un petit peu d'attention, on, on peut voir, alors il y a de l'injustice, il y a l'immoralité sexuelle, mais par exemple la méchanceté, la soif de posséder, est-ce que nous avons parfois soif de posséder? Est-ce que nous sommes pleins d'envie? Quand on lit le sermon sur la montagne, Jésus qui nous parle de dans Matthieu chapitre 5 à 7, il reprend la loi, il leur dit non, mais vous dites il ne faut pas tuer votre voisin, mais moi je vous dis si vous le pensez dans votre tête, vous dites ah, je le déteste. C'est comme si vous l'aviez fait. On se retient parce que dans notre société, on sait qu'il y a des conséquences, mais notre cœur et notre intention est là. Et quand on lit cette liste, combien de choses dans cette liste sont là dans l'intention au niveau de nos cœurs? Dieu aide-nous. Dieu, nous avons besoin de ce salut. Nous avons besoin des effets du salut que nous pouvons avoir par la foi en Jésus. Nous avons besoin de la sanctification, que Dieu nous change tous les jours, qu'il continue à nous changer, à nous rendre plus comme lui, parce que ces choses-là sont toujours aux portes de nos vies, sont toujours aux portes de nos cœurs. Et les versets 32, « Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. » Dans la loi de Dieu, ces choses-là qu'il décrit sont condamnables par la mort. Ça aussi, ça doit nous remettre ces choses-là dans le contexte. Nous qui sommes chrétiens, qui disons aimer Jésus, et Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et ces choses-là, la parole de Dieu dit qu'elles sont dignes de mort. Comme je le disais, ce sont des choses qui sont sans doute présentes dans nos cœurs et nous avons besoin que Jésus continue à nous changer. Nous avons besoin de cet évangile, nous aussi. Le salut, il y a le moment où nous sommes sauvés initialement, mais il y a aussi l'idée dans le salut que nous sommes continuellement sauvés, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes changés. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Donc pour nous aussi, c'est la puissance de Dieu pour nous changer, pour nous débarrasser de ces choses-là. Et on va regarder la semaine prochaine dans le chapitre 2. Il va tourner les choses un petit peu, tourner les tables et dire « Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable ». Et donc il tourne les tables, il dit « Eux, ils font toutes ces mauvaises choses » et il dit « Donc, vous aussi, en tant qu'homme, vous avez un problème devant Dieu, sans Jésus, et vous avez besoin de son évangile. » Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, et pour ta résurrection, et pour cet évangile, Seigneur, pour cette réalité que nous pouvons être sauvés, justifiés, mais aussi sanctifiés. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Moi, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, le monde autour de nous a besoin de toi. Aide-nous à avoir ces paroles que Paul a, à dire qu'il n'a pas honte de l'évangile, parce qu'il sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Seigneur, nous voyons le monde autour de nous et bien des fois, j'ai peur pour le futur, Seigneur, pour les choses qui viennent. Je me dis, ça va pas aller forcément dans le sens que j'aimerais, mais ton évangile, c'est de la dynamite qui peut changer le monde et qui peut changer les cœurs et qui peut changer la société, qui peut changer les vies des gens autour de nous et qui peut changer nos vies, Seigneur. Alors aide-nous à vraiment profiter de cette étude dans la lettre aux Romains pleinement et d'accueillir ton évangile, Seigneur, et de ne pas en avoir honte autour de nous, Seigneur. Merci pour ce matin, merci encore une fois pour ta parole. En ton nom, nous prions. Amen.